Vous écoutez
RMC.
RMC.
Welcome, Silvino. Are you okay? And are you happy to be here?
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
I want to win here, you know, before. And after that, we will see. Or we go to fish. Hein?
Timothée Mémon.
Bonsoir à tous, excellente année 2020 au nom de toute l'équipe de l'After, de la part des historiques, des membres les plus récents. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos vies respectives, mais aussi parce que c'est l'essence de cette émission, dans votre vie d'amoureux du football. Évidemment, il n'y aura qu'un champion, qu'un vainqueur pour chaque compétition, mais je vous souhaite du fond du cœur de vibrer, que votre équipe de cœur vous offre que tout supporter est en droit d'attendre, même si la VAR essaye de nous en priver, des émotions, de l'excitation, de la joie, de la folie, quelques défaites, quelques injustices, quelques frappes que si elles avaient été dedans, ça aurait été pareil, car sans les frustrations, le bonheur du foot n'est pas une belle année dans vos stades, dans vos tribunes, derrière vos clubs et vos équipes. Pour parler de ce sport si merveilleux qu'est le football, aujourd'hui, auprès de nous, trois hommes et une seule question. Quel serait votre souhait pour 2020? Daniel Riolo, bonsoir et bonne année.
Salut les amis, meilleurs vœux à tout le monde, bonne année. Effectivement, voilà, jour de reprise, jour de vœux.
Quel serait ton vœu pour le monde du foot en 2020?
Oh non, mais je veux entendre ceux des autres avant.
Ouais, ils ont déjà participé. Ah, c'est un deuxième choix pour eux.
Ouais. Ah, c'est pas grave, je veux les réentendre.
Un des vœux était que Leeds monte.
Et l'autre, Damien Perrinet.
L'autre vœu, qu'il y ait une Coupe d'Europe chez un club français, ou au moins un parcours digne de ce nom, représentatif du football français.
On avait le renouvellement d'Europa League en Ligue 1 aussi. D'arrêter de toujours aller chercher les mêmes, CF Camboire à Toulouse. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre?
Et là, tu te braques parce que pour le coup, le renouvellement, il y en a.
Il s'est opéré, mais il y a beaucoup. Mais c'est encore similaire. Que Pélissier soit en Ligue 2, c'est quand même un peu plus curieux.
Franchement, il en reste que deux ou trois. Mais il y a eu quand même.
Même un Galtier se renouvelle. Il y a du renouvellement.
De ce côté-là, le combat, en tout cas l'opinion qu'on a eue pendant longtemps, on peut dire qu'elle a. Elle a vu le jour. Il y a eu un vrai renouvellement des entraîneurs et tout. Après, c'est effectivement dans les petits clubs qu'on te ressorte toujours un peu les mêmes. Pourquoi pas, quoi. Mais bon.
Vous les avez entendus, Damien Perrinel, Jonathan Macardy, bonsoir. Très bonne année à tous les deux.
La bonne année, hein, mec.
Pour
le mien, rapide au niveau foot, en fait, c'est comme Damien qu'un club français gagne la Ligue des Champions. Donc Paris ou Lyon, ils se démerdent, mais bon.
Avoue que tu pourrais. Après, t'as une petite préférence quand même.
Moi aussi.
Évidemment. Alors, tiens, une belle perche, parce que justement, j'allais te demander. Alors, oui, toi, évidemment.
Moi, c'est la peste ou le choléra, hein, je dois t'avouer.
Évidemment, le Stéphanois, toi, tu préfères que ce soit Paris. Jonathan, le vœu de foot, l'OM deuxième comment je vais te poser cette question? Est-ce que tu préfères que l'OM soit deuxième ou que Paris gagne la Ligue des Champions? Qu'est-ce que tu veux le moins, en fait?
Bah que l'OM soit deuxième, je préfère. Pourquoi je me demande ça?
Non, attends, c'est.
Ou que Paris ne gagne pas la Ligue des Champions.
Voilà.
Je préfère que. Ah, le problème, c'est que si Marseille est deuxième et va en Ligue des Champions l'année prochaine, on joue la descente. Donc, je sais pas, c'est très compliqué. Dur de se prononcer.
Ah, bah Liverpool a déjà marqué.
Ah ouais, absolument. Ouais. Premier Salah. But signé Mohamed Salah.
Ouais, mais t'as été en vacances pendant un moment, parce que là, maintenant, il y a 3 minutes avant de savoir si le but est validé avec la VAR.
Il va falloir attendre.
Ça, tu sais, même en vacances, on suit tout ce qui se passe quand même. Et effectivement. Et d'ailleurs, je me suis dit que j'étais évidemment assez pessimiste sur le fait qu'il puisse y avoir un retour en arrière dans le VAR, parce que quand la machine est lancée, j'ai du mal à croire qu'elle puisse faire marche arrière, sauf si l'Angleterre s'y met. Moi, je pense que les Anglais sont les seuls qui ont la force, la puissance s'élever et de remettre un petit peu de doute sur les certitudes des pro-VAR. D'ailleurs, beaucoup sont en train de faire un demi-tour quand même et se rendent compte que donner les pleins pouvoirs à la machine, c'est le risque qu'on décrivait depuis bien, bien longtemps. Donc là, j'ai repris un petit peu espoir qu'on ait une évolution. Alors, il y a eu l'idée selon laquelle maintenant, il y aurait but... Sauf si l'erreur elle est genre de 50 cm ouais, mais comme c'est pas précis,
tu peux pas.
Voilà. C'est impossible.
C'est pas précis,
parler longtemps, c'est
parce que c'est bien beau d'avoir dit ce qu'ils ont dit là, d'avoir fait la remontrance, arrêter de nous faire chier quand c'est une clavicule ou une cheville. Mais en fait, de toute façon, tu ne peux pas, parce qu'après ce sera 10 cm, 20, 50, 1 mètre.
À partir du moment même si tu as 1 mm, il y a hors jeu malheureusement, c'est comme ça.
Il y a le problème du coup au moment où tu appuies pour déclencher, surtout le révélateur.
Non mais ça d'accord, mais en fait ce qui a été dit là en Angleterre là, ce que veut comment s'appelle l'institution là qui a aux gens du VAR, maintenant vous en fait vous ne dérangez l'arbitre, vous ne dérangez l'arbitre que quand c'est complètement évident. C'est la dernière consigne.
Mais, ça veut
mais,
dire. Gros,
mais je pense que ça reste flou néanmoins.
Parce qu'à partir de combien de centimètres, c'est complètement évident.
Complètement évident. Et de toute façon, à partir du moment où on avait mis le doigt dedans, j'avais dit, la machine, c'est très compliqué de revenir en arrière. Même moi, les Anglais m'ont redonné un petit peu confiance durant les fêtes. Là, j'ai bien suivi toutes les polémiques et surtout les grands noms du foot qui ont dit à quel point ils en avaient ras-le-bol. Donc, on est très contents. On accueille tous ces gens-là à notre table.
T'auras juste une évolution. T'auras pas une révolution. Tout
non, mais non, c'est impossible. La VAR ne disparaîtra jamais. Ils vont mettre, ils vont la sponsoriser par je ne sais quelle.
Messieurs, un petit sommaire de cette émission. On va parler dans quelques instants avec toi, Daniel, de Neymar. On parlera également de la rumeur Sturridge à l'OM, ce sera avec toi Jonathan, on accueillera Jimmy Burgo, il va affronter avec Trélissac l'Olympique de Marseille en Coupe de France, ce sera dimanche prochain. On aura un gros sujet à partir de 22h, vous nous appelez pour en parler au 32-16 évidemment et sur Direct Studio, l'évolution de la communication chez les footballeurs. C'est vrai qu'on faisait un peu les bilans de la dernière décennie de football à l'occasion de cette nouvelle année qui vient de se tourner, et on s'est aperçu que c'est vraiment quelque chose qui avait métamorphosé le paysage footballistique. On en parlera notamment avec un maître de conférence en la matière. On sera également avec notre community manager ici à RMC.
C'est un sale type en plus.
Notre community manager,
faut pas le dire.
On aura également le mercato show évidemment, et puis on aura une grosse page Première Ligue tout à l'heure avec Julien Laurence à partir de 23h. Et le quiz.
Doit se passer. Il s'est pas encore passé beaucoup de choses quand même. Hein.
À la fin de cette émission.
Mercato, là, c'est...
Ah, il y a une bonne page mercato. Tu verras.
Il y a eu de la rumeur infondée surtout.
Et pas que René Girard au PFC. Ton avis tranché, Daniel, tu voulais nous parler.
Ah, je pensais que t'allais me raconter ton réveillon, toi, avant. Non?
Bon,
ça se raconte pas.
Moi, ouais, je suis bien, il a bien
profité. Mais de toute façon, lui, ça sert à rien qu'il nous en parle, on sait où il était.
En fait, après, le problème, c'est ce dont je me souviens.
En tout cas, le lieu, on sait, c'était le Moloco, mais après, ce qui s'est passé, ça, on ne sait pas.
Même pas, figure-toi.
Non.
Sous les brunes, la brune bretonne. Ah, avec un immense plaisir.
T'as mis du bon whisky.
Aussi. Voilà. Avec modération, bien sûr.
Oui.
Et d'autres amis. On va faire un petit tour du côté de Liverpool. C'est évidemment notre live du jour. Liverpool chez Phil, c'est avec Clément Brossard. Et on l'a dit, c'est parti extrêmement vite, Clément, à Anfield.
Salut Timothée, salut à tous. Meilleurs vœux à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de revoir entre-temps. En effet, c'est parti très très vite. Dernière affiche de la 21e journée de Premier League. Un but à zéro déjà pour les Reds grâce à Mohamed Salah. Le 10e but de l'Égyptien depuis le début de la saison. Il vient couper un centre de Robertson. On parlait de l'importance des latéraux côté Liverpool. Andrew Robertson et Trent Alexander-Arnold, ils sont encore efficaces dès le début de match. 8 minutes de jeu, 1 but à 0 pour Liverpool face à Sheffield. Liverpool qui prend 13 points d'avance provisoirement sur Leicester, 14 sur Manchester City.
Merci beaucoup Clément, on revient te voir évidemment dans quelques instants. C'est vrai qu'il a mis la grosse équipe pour cette rencontre avec Mané, Firmino, Salah, on l'a dit.
Les trois de devant ne tournent jamais, mais ça court toujours autant.
Une profondeur de banc au milieu de terrain par rapport à la saison dernière.
Elle est trois devant. C'est vraiment le point du schéma tactique de Klopp au niveau pressing, au niveau course, ainsi de suite. Ce sont toujours les mêmes. Ouais. Et eux, ils se plaignent jamais de trop jouer. C'est en fait. Enfin, Klopp, oui, mais pas les joueurs.
Pas les joueurs,
ouais. On a beaucoup fait de bilan là, pendant les fêtes de la décennie foot. Moi, j'aimerais bien savoir, par curiosité, rien à voir avec le foot, sur la décennie, quel est votre film de la décennie et l'album musical de la décennie? Ça intéresse les joueurs. Je pense qu'on peut jouer à ce petit jeu. On y réfléchit et puis à la fin de l'heure, là, vous me le dites.
À 23h,
on te donne ça tout à l'heure.
Tu prends de cours pour 10 ans, là, c'est.
Je pense que.
Avant cela, messieurs, l'avis tranché de Daniel Riolo.
Riolo dit tellement de bêtises. J'ai été président, il était encore en culotte courte. Dans 5 ans, et vous serez peut-être plus à RMC pour expliquer vos thèses, mais moi, je serai toujours président de club.
Mais je me souviens pas, tu sais.
Il l'a fait de revenir.
Quand est-ce qu'il avait dit ça? Je me souviens plus.
C'était il y a 2 ans, il avait appelé directement en régie.
Non, c'est pas la vie méga tranchée, c'est plutôt le fruit de mes petites lectures au soleil pendant les vacances. Là. Avant de parler de Neymar, est-ce que vous... Ça va ensemble puisque les deux sont désormais indissociables. Est-ce que vous avez lu l'interview de Mbappé dans France Foot?
Oui.
Oui.
Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je l'ai trouvé absolument extraordinaire. Je crois que c'est bien que ces mecs-là parlent de temps en temps parce qu'ils ne parlent pas assez. Et la communication, ça permet aussi de mieux comprendre les personnes. Peu importe qu'ils la contrôlent, qu'ils la contrôlent pas, qu'ils fassent attention quand ils parlent, il y a toujours des choses à apprendre. J'avais beaucoup aimé celle de Cristiano Ronaldo où on comprenait son personnage complètement obsédé par sa carrière, les buts, les stats, ce qu'il était au fond de lui. Et j'ai trouvé extraordinaire Mbappé de se donner autant. Ce mec-là, enfin comment dire, je crois que parfois on mesure pas assez le phénomène qu'il est, quoi. Depuis le début de la saison, ça m'est souvent arrivé de critiquer même ses attitudes, ou parfois le fait qu'il en fasse trop, ou pas assez, ou qu'il soit pas toujours dans le bon ton collectif. Ça enlève pas ces critiques-là. Mais en tout cas, l'interview permet de comprendre à quel point ce mec est un ambitieux, un malade de la réussite, et tout ça pour moi, ce sont des qualités. C'est un discours qui est assez rare chez les sportifs français. Je trouve qu'il y en a pas énormément qui sont à ce point dans la volonté d'afficher qu'ils veulent aller au plus haut, qu'ils veulent tout écraser, qu'ils veulent bouffer les stats. Ce serait un Américain ou un autre sportif, ça se surprendrait moins.
Ouais, mais lui, il peut se permettre d'afficher ça, ses ambitions. Et il va pas paraître pour arrogant, justement, parce qu'il a une telle confiance.
Mais en fait,
non, c'est pas de l'arrogance. Thierry Henry, on pouvait penser.
Mais peu importe.
Il a le même discours. On disait qu'il était arrogant.
De toute façon, on avait tort, et j'ai toujours défendu Thierry Henry sur ce point. On doit avoir tort et on doit accepter ce qu'est Mbappé, c'est-à-dire un phénomène. Il est déjà à son âge champion du monde. Il a déjà fait des beaux parcours en Ligue des Champions, pas avec le PSG, mais avec Monaco avant. Au niveau de ses stats,
mais en termes de précocité, on n'a jamais vu ça.
De ses précocités, c'est extraordinaire. Non, mais je dis ça parce que en la lisant, je m'en voulais presque de certaines critiques où je voyais c'est vrai qu'il en a trop fait parfois même dans ses célébrations de buts, mais en fait, il faut le prendre comme il est, ce mec-là. Il faut l'accepter parce qu'il est hors du commun. Peut-être il se plantera parfois. Je pense que globalement, il va plus réussir qu'il va se planter parce qu'il a beaucoup de talent. Ça n'empêche pas de dire qu'il y a peut-être des joueurs que techniquement on apprécie plus que lui. Peu importe, que chacun continue à avoir son avis sur lui. Mais ce que je comprends à travers l'interview, c'est, on s'en doutait, mais c'est bien que lui le dise. Et je trouve qu'il n'avait pas peur de s'affirmer et de dire. Putain, mais moi, je veux battre des records, je veux gagner, je veux le ballon d'or. Parfois, il avait un discours dans l'interview qui était même pas loin d'être ultra individualiste, hein. Parfois, vraiment, hein. Ouais, mais je trouve que le fait qu'il l'assume, je trouve que c'est énorme qu'il l'assume.
C'est ce que j'allais dire sur cet article. Il fait quand même un peu preuve d'égocentrisme.
Absolument.
Sur beaucoup de points. Alors, il parle de l'équipe parce qu'il faut parler de l'équipe à un moment donné. Et parce que ça passe mieux. Mais si tu regardes même sur la fin de l'interview.
Est-ce que les mecs hors du commun sont pas beaucoup comme ça?
Mais t'es obligé d'être comme ça, de toute façon. T'es obligé d'avoir cet égo surdimensionné, de vouloir battre tout le monde et de vouloir être le joueur de l'équipe. Bien qu'il est très malin, encore une fois, parce que si tu regardes, il met Neymar aussi vraiment en avant, en disant non mais t'inquiète pas Neymar, c'est toi la star, si tu le brosses bien dans le sens du poil aussi quand même, ils sont malins.
À un moment il a quand même cette phrase en disant moi aussi je suis une star internationale. Et il dit ça, enfin c'est quand même dingue. Moi maintenant, il dit, je crois que la phrase c'est maintenant que je suis une star internationale. Tiens, le mec il le dit. Alors après, est-ce que tous les champions doivent être comme ça? Est-ce que c'est une particularité commune? Écoute, franchement, je sais pas. Il y avait un mec comme Ibra qui le faisait, selon moi, à mauvais escient, parce qu'après tout, lui n'a jamais atteint les sommets qu'il disait vouloir atteindre. Je crois que la domination, puisqu'on parle de décennies, le Ronaldo-Messi dans le foot, ça a quand même abîmé, c'est pas le mot, mais ça a quand même conditionné énormément de cerveau dans le
football. C'est
d'ailleurs. Mais ce sont les modèles absolus. Donc les mecs pensent, et Mbappé probablement, que
à l'individualisme extrême,
voilà,
dans les records,
en fait, la réussite
stats.
Absolue, oui, mais c'est celle-là parce que les mecs ont gagné 5 ballons d'or.
Mais non, mais
chacun,
la réussite passe parce que aussi en club ils ont gagné des trophées importants, la Ligue des Champions, ils ont tout gagné avec leur club.
Exactement.
Et là en fait, où je vois le problème avec Mbappé, le problème entre guillemets, c'est que son attitude, moi, elle me choque pas d'avoir autant d'ambition dans les statistiques, de vouloir briller. C'est la force de caractère dont il fait preuve encore plus à son âge-là, c'est vraiment remarquable. Là où je je pense qu'il doit encore s'améliorer, c'est qu'il ne faut pas oublier que, par exemple, tu parlais Cristiano Ronaldo, qui a cette attitude individualiste poussée à l'extrême. Lui, c'est l'obsession des stats, c'est la machine. Il a sa carrière, c'est ça qui compte, et à la rigueur, le projet collectif dans lequel s'inscrit passe limite au second plan. Sauf que Ronaldo, à travers son comportement sur le terrain, à travers son comportement dans le vestiaire, a toujours rassemblé ses coéquipiers. Et mis à part quelques petites anicroches au Real qui ont été montées en épingle, je pense, par la presse espagnole qui est friande de ces histoires-là, il a eu cette capacité à se comporter comme un vrai capitaine. Après, chose que pour l'instant Mbappé n'a pas. Mais après c'est son
Ronaldo
âge.
Était pas aussi star à son âge. Ronaldo était pas star
c'est
comme
ce que
ça à son âge. Il était pas encore au Real.
Bien sûr.
Bon, il était, tu me diras, dans un grand club, mais il était dans un grand club où il était entouré. Il était entouré par des cadres,
il y avait Scholes.
Mbappé, il est déjà dans les joueurs les plus importants, mais les mecs qui sont les plus entourés, les plus
Mbappé
regardés.
Doit pas oublier que pour vraiment réussir à devenir cette star, cette superstar du football et d'avoir le destin qui lui est prédestiné, il aura besoin de l'équipe.
Bien sûr,
et parfois, j'ai eu l'impression qu'il avait peut-être eu sur certaines attitudes.
Mais t'as raison,
Ronaldo.
Mais Ronaldo avait parfois également ce défaut. Mais moi, c'est pas à la limite. Moi, je ne veux rien enlever si des gens peuvent penser. Moi, ça m'est arrivé dans la première partie de saison. Penser que parfois il en faisait trop ou il donnait pas le ballon quand il fallait.
C'est l'âge.
Moi, je veux pas enlever ça, on peut, mais c'est juste souligner à quel point malgré tout ce mec est hors du commun sur le terrain, mais dans sa tête, ce mec est très intelligent.
Mais même ces petites erreurs, je pense que c'est juste un problème de maturité qu'elles se commettent ici.
Juste, même sur la fin de l'interview, ça je voulais en venir dessus, c'est même sur les replacements défensifs. À un moment, il y a un truc avec Neymar. Il dit, ouais, c'est vrai que parfois, on en fait moins et on est là pour se dire, allez, quand même, on va se replacer.
Genre, ils se le disent à deux, comme si tous les deux, en fait.
Et genre,
comme si ils ne jouent que tous les deux.
Donc, ça veut dire, d'une, qu'il en a conscience de ce défaut-là aussi, parce que c'est un défaut, et qu'ils font un peu ce qu'ils veulent aussi sur le terrain. Et quand ils ont envie, ils le font.
Et ça peut être l'atout. Et la limite
exactement du PSG.
Après, ce que je trouve intéressant en termes de communication, c'est qu'il y a une vraie américanisation. Tu en as parlé un petit peu dans la façon de communiquer d'Mbappé, où on le voit aux États-Unis. Et je pense que Damien me dira pas le
foot.
Les basketteurs assument d'être le clutch player de l'équipe. Ouais. En football américain, ils assument. Ouais. Comme tu disais l'autre jour, ils signent des chèques qu'ils peuvent encaisser. C'est-à-dire que quand ils disent en dehors, dans les médias, on va gagner le Super Bowl parce que je suis le meilleur quarterback du monde. Et bien derrière, ils le montrent sur le terrain. Et je trouve que chez Mbappé, il y a un côté très comme ça. Effectivement, et cette interview va dans ce sens-là.
Mais attention, parce que une fois qu'on a dit tout ça et que bon, moi je veux bien admirer cette ambition, le féliciter. Voilà. Après,
faut gagner.
Et l'air du temps, mine de rien, n'est pas totalement à ça. Le côté, comme je disais, je ne sais pas si on peut dire NBA-isation du football.
C'est pas l'air du temps, c'est la mentalité européenne qui est pas encore à ça.
Non, mais c'est même pas l'air du temps dans le foot, parce que le champion d'Europe en titre n'a pas proposé ça. Le champion d'Europe en titre, il a proposé un jeu collectif à 11 avec des stars qui se mettent comme
des
chiffonniers.
Est-ce qu'il y a vraiment des stars à part Mohamed Salah dans cette équipe en plus?
Non, mais ben non. Donc,
enfin, même le dernier carré de la Ligue des Champions, c'était ça. Hein,
exactement. L'air du temps de ce qu'on a vu récemment dans le foot et même de la France championne du monde dans laquelle était quand même Mbappé, c'est quand même un gros collectif, des mecs qui se battent les uns pour les autres et ça peut être donc le revers de la médaille de ce caractère affirmé qu'on peut trouver formidable, c'est de ne pas résumer le PSG, Mbappé, Neymar, et c'est le gros risque qu'ils vont avoir cette année. Et on peut enchaîner avec ce que je voulais dire sur Neymar. Où pareil, là, les articles de ce début d'année parlent déjà de rédemption, d'un Neymar qui a retourné le public. Bon, moi je veux bien. Oui, on a vu pendant un mois Neymar à un très très haut niveau, mais on l'a vu en Ligue 1 l'année dernière. On l'avait vu 6 mois au très haut niveau, et puis il avait disparu. Donc il ne faut pas qu'il se blesse. Il faut qu'il soit enfin là en 8e de finale. Et on en revient à ce qu'on disait. Le PSG pourrait gagner sans eux, mais le PSG ne va pouvoir gagner qu'avec eux, parce qu'ils sont là. Parce que ce sont les stars de l'équipe et parce qu'il va falloir trouver le moyen, et c'est à Tuchel que reviendra cette tâche, de construire le collectif avec ces deux-là, de faire en sorte que ces deux-là soient à leur meilleur niveau, et s'ils le sont, ce sont des joueurs absolument hors du commun, ils peuvent faire gagner le PSG. Mais attention que ça ne se résume pas à ce que tu disais tout à l'heure. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? On défend? On se replace? On fait quoi?
T'as résumé la situation. En fait, il y a deux choses à dire là-dessus. C'est que la première chose, tout ce qu'on dit sur le Paris Saint-Germain ne sera que du blabla tant qu'on n'est pas arrivé à la période de vérité qui est au printemps.
Ouais.
Et je trouve que maintenant, Neymar et Mbappé, ça fait deux saisons et demie, trois saisons, deux saisons. On sait qu'on est à combien? La troisième saison? de démarrer Mbappé, la troisième saison. Moi, je pense que Tourelle, ça fait deux saisons qu'il est là. Et si un le Paris Saint-Germain avait un entraîneur suffisamment compétent et suffisamment adapté dans la gestion d'un effectif de grande qualité comme a le Paris Saint-Germain, on n'en serait plus à se poser ces questions. Je pense qu'il y a toujours, en fait, si on parle de ça, c'est qu'il y a toujours sous-jacent ce problème d'autorité dans le club.
Non, je suis pas d'accord avec toi sur ça, parce que Tourelle, au bout d'un moment, t'as deux joueurs qui sont au-dessus de l'entraîneur, qui sont au-dessus de tout ça. Bien sûr que c'est son rôle de les mettre au service de collectif, et obligé, au bout d'un moment, aujourd'hui, t'es obligé de lui reconnaître qu'il a peut-être trouvé une clé à ce niveau-là, et depuis les quatre matchs, ça fonctionne. Maintenant, j'espère que ça fonctionne.
Quatre matchs de Ligue 1,
messieurs, et en Ligue des Champions.
Ahmed nous a appelé au 32-16. Salut Ahmed.
Salut les gars, merci beaucoup, merci de me laisser
parler. Bonne année.
Salut mec.
Merci à vous.
Mes vœux les gars.
Allez, bonne année.
Alors justement, tu voulais réagir à la fois sur le cas Mbappé, dont on a parlé avec Daniel il y a un instant, et aussi sur ce côté Neymar, sur cette supposée rédemption du Brésilien.
Moi ce que j'aime bien dans ce que Neymar a... Je pense que Neymar a compris une chose, c'est que Mbappé était un phénomène qu'il dépassait. C'était un joueur qui était bien meilleur que lui dans la surface, dans la finition. Et j'ai l'impression que Neymar...
Là, tu t'égares. Non. Que Neymar, considéré comme Mbappé est supérieur à Neymar, ou que Neymar le considère comme tel, non.
Non, je veux dire, aujourd'hui, c'est un phénomène. Vous prenez les socios au Barça, il y a eu un sondage, ils veulent tous Mbappé, personne ne veut de Neymar. Donc
ça veut rien dire, ça, ouais.
Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il se dit, je vais me mettre au service de l'équipe. Je vais comprendre que peut-être, en étant passeur, en étant l'animateur du jeu, c'est bon pour moi.
Neymar, c'est ce qu'il est, c'est pas un avant-centre, Neymar.
Il le fait bien, en tout cas. Moi, je trouve qu'il le fait.
Ça a toujours été son rôle, que ce soit avec le Brésil ou avec le Barça.
Neymar, c'est pas un avant-centre. Neymar, c'est un soit attaquant de côté, soit un 10, qui met des buts. Mais en l'occurrence, effectivement, l'association pourra fonctionner à merveille si, comme ils ont joué récemment, Mbappé se retrouve souvent en position de pointe avec un Neymar qui peut lui donner le ballon et lui donner des bonnes passes, quoi.
Bah moi, je pense que c'est une très bonne image pour Neymar, parce que ça lui donne un peu plus un rôle collectif.
Ouais.
On reproche souvent d'être un peu individualiste, de penser qu'à lui. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment changeant dans son attitude. C'est, on a l'impression qu'il a pris goût à être au service.
Moi, j'ai toujours trouvé qu'il était comme ça. À Paris. C'est vrai qu'à Paris, il y a eu des périodes où il avait une tendance à être un petit peu dans la régalade.
Souvent, il essaye de croquer.
Mais avec le Brésil ou le Barça, ça a toujours été un joueur qui s'inscrivait dans le projet collectif sur le terrain, du moins.
Après, des deux, dernièrement, pour moi, c'est plus Mbappé qui croque que Neymar,
attention, parce que par rapport à ce que tu dis,
il en parle aussi dans l'interview. Il dit, de toute façon, maintenant, on attend de moi que je marque des buts, donc presque c'est normal qu'il croque, il dit.
Mais.
Ça, le mec, il va loin quand même dans sa réflexion.
Par rapport à ce que nous dit Ahmed, attention, Neymar reste quand même le meilleur joueur du Paris Saint-Germain devant Kylian Mbappé. Et je pense que là, on parle juste de perception et de réputation. Et ce qui s'est passé cet été avec Neymar, plus ce qui s'est passé à la Coupe du Monde au Brésil, a fortement écorné son image, mais ne nous méprenons pas. L'atout numéro un du PSG, c'est Neymar, c'est pas Mbappé.
Ah, c'est les deux. C'est aujourd'hui, quand t'as deux joueurs comme ça, c'est comment tu vas les faire jouer, quelle va être leur implication dans le collectif.
J'attends de voir Mbappé dans un match décisif de Ligue des Champions face à un gros adversaire. Neymar a déjà prouvé qu'il était capable de sortir des très grands matchs dans la pression.
Il a été bon avec Monaco.
Ouais, avec
il a fait
Monaco.
Des très gros matchs en équipe de France avec Monaco. Coupe du Monde, il a été très bon aussi.
Mais c'était pas le leader alors avec l'équipe de France.
Toujours est-il, ils se répartissent les rôles comme ils veulent. C'est pas notre problème. Mais au bout d'un moment, quand ils jouent ensemble et qu'ils ont envie de jouer de cette la manière dont ils ont joué ces 4-5 derniers matchs, bien sûr que ça peut devenir inarrêtable. Mais s'ils commencent à mettre leur question d'ego ainsi de suite et sur la absolue fais pas la passe parce que moi je vais croquer, là il y a peut-être danger au bout d'un moment. Il peut y avoir un peu de friture sur la ligne.
Il n'y aura rien en Ligue des Champions de toute façon si tu n'articules qu'autour de ces deux-là sans que le collectif fonctionne. Tout l'a montré dans les récentes et même autour de Messi et Ronaldo quand ils gagnent la Ligue des Champions, tu as des collectifs extraordinaires, le Real. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de joueurs au service de Ronaldo, Benzema par exemple était au service de Cristiano Ronaldo, et il y avait un milieu de terrain absolument fantastique dont on a beaucoup parlé, mais il faut sans arrêt redire que c'est le milieu de terrain qui te fait gagner.
Modric, Casemiro,
c'était fabuleux. Et pour ça qu'on dit Messi, tout Messi qu'il est, qui a enquis les ballons d'or, il n'a plus regagné la Ligue des Champions depuis qu'il est plus avec
attention aussi sur Paris, parce que moi je pense, je suis persuadé que cette année, si Neymar, ça se passe bien avec Neymar est là dans les matchs décisifs, je pense que c'est lui qui peut être le remède face à la, comment dire ça poliment, face à la diarrhée qui s'empare des intestins parisiens lors des matchs
une question pour Ahmed. Ahmed, tu en as voulu, tu faisais partie de ceux qui en ont voulu à Neymar à l'été dernier, et si oui, est-ce que aujourd'hui t'as passé l'éponge?
Ouais, moi j'en ai voulu, moi je voulais qu'il parte. Donc,
L'éponge. Et aujourd'hui, l'éponge, elle est passée quand il finira la saison. Tu veux pas passer, voilà, tu vas pas passer l'éponge à Noël alors qu'il a fait qu'un mois de
coupette. Si Paris sort en quart et que Neymar est.
On va juste laisser Ahmed répondre et nous donner son avis.
Moi, mon avis, c'est la saison qui va dire ce qu'on va penser de lui. Voilà. Si on fait un demi Ligue des Champions par rapport à la catastrophe de l'année dernière, bah, j'aurai un peu plus le sourire. Parce que on a quand même une équipe qui est taillée pour ça. Donc c'est le bilan qui va nous apporter. Et l'idée aussi, moi, même s'il prolongeait, par exemple, je serais content parce que quelque part, ça veut dire que il s'inscrit plus dans la durée du comme Mbappé d'ailleurs. Hein. Moi, je jugerais Mbappé s'il prolonge. Je vais pas faire de cadeau aujourd'hui. Par contre, il y avait un autre aspect que je voulais aborder avec vous, c'est cette rumeur, cette histoire de Paredes. À la Juve. Moi, je veux absolument pas d'Alan, moi. Un joueur qui est à la tôle depuis 6 mois, qui a pas joué. Dans un mois, on joue Dortmund. Paredes a l'air de s'adapter dans le 4-4-2. Je comprends pas du tout ce casting. Voilà, c'est tout.
Ouais, merci beaucoup, Ahmed, d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ton avis sur Neymar, sur Mbappé. On va faire un rapide tour du côté de Liverpool, Sheffield United. 25 minutes de jeu, Clément Brossard.
À la 26e, même, et rouleau compresseur, Liverpool qui est encore en marche. Mohamed Salah, à la 4e minute, pour son 10e but de la saison. 80% de possession quasiment pour Liverpool, qui déroule et face à une équipe de Sheffield pourtant pas maladroite. À l'extérieur, première défaite face à Manchester City, c'était dimanche dernier, hors de ses bases, mais pour l'instant ils sont en grande difficulté face à une équipe à qui on promet déjà le titre de champion d'Angleterre, oui, 30 ans après son dernier titre. 1-0 pour Liverpool face à Sheffield, 26e minute de jeu.
21h27, on va revenir dans un instant dans l'after. On va parler notamment de l'Olympique de Marseille avec Jonathan McCardy. On parlera aussi en creux de l'Olympique de Marseille puisqu'on invitera l'un de ses futurs adversaires, le capitaine de Trélissac, qu'ils affronteront en Coupe de France dimanche. À tout de suite.
RMC, l'After Foot, Timothée Mémon.
21h30, de retour dans l'after. On a évoqué le Paris Saint-Germain et ses stars Mbappé et Neymar dans cette première demi-heure. On va parler de son meilleur ennemi, pour ainsi dire, l'Olympique de Marseille. Et Jonathan, tu voulais revenir sur cette rumeur qui revient assez régulièrement, la possibilité d'imaginer Sturridge du côté de Marseille. C'est ton avis tranché.
Comme dans un couple, quand t'as Nana, tu la vois tous les jours, je commence à plus voir quand elle est mal rasée.
Ce soir, il nous avoue, il aime les travaux.
Dis-nous tout.
Bah écoute, alors c'est une rumeur qui est en train de tourner sur Internet. Je vois que beaucoup de gens s'excitent et sont assez enthousiastes à l'idée que Daniel Sturridge rejoigne l'Olympique de Marseille. Bon, je pense que par le passé... Bah,
ceux qui s'excitent, ils confondent pas avec Sterling. Hein.
Non. Sturridge, l'ancien Liverpool qui est en Turquie.
C'est pas la même chose. Hein.
Bah non, c'est pas la même chose.
Je vois pas ce qu'il y a à s'exciter sur Sturridge. Hein.
Écoute, je pense que par le passé, de toute manière, si on regarde ce qui s'est passé dans la gestion de l'OM depuis que McCourt a repris, les erreurs de ce genre, il y en a eu bien trop. La première qui vient en tête, c'est celle de Strootman, qui présentait un profil similaire, c'est-à-dire que c'est un nom qui, à part le passé, entre guillemets, brillé sur la scène européenne, aucune certitude.
Qu'est-ce qu'il a brillé où, Sturridge?
Mais c'est un... Oh, tu me laisses finir. Mais c'est quand même un nom qui a fait quelques belles saisons quand même, à Liverpool, avant d'avoir sa série de blessures.
Il a un bon super sub à Liverpool.
Il a fait quand même 2-3 belles choses. C'était un bon joueur d'effectif. Je te dis pas que c'était une star non plus, mais c'était un joueur qui avait quand même à un moment une certaine
saison.
Là, le problème, c'est que quand on regarde sa saison en Turquie, il a joué 13 matchs. Alors c'est pas déshonorant. Il a marqué 7 buts, mais on voit qu'il a loupé 8 matchs. Écoute, en fait, on ne sait pas s'il y a un vrai intérêt du club, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est typiquement le genre d'idée qu'il ne faut pas suivre. Des erreurs comme ça, l'OM en a commis déjà beaucoup trop depuis que McCourt a repris le club. Et maintenant, j'appelle tout le monde de la direction aux supporters à garder la tête froide. Il y a le mercato d'hiver qui vient de commencer. Effectivement, l'Olympique de Marseille doit absolument recruter. Il y a des postes clés qui sont encore vraiment sous-effectifs. Je pense au poste de latéral gauche. Si au poste de latéral droit, en plus, il y avait la bonne idée de mettre un petit peu la main à la poche pour arrêter de mettre Bounassar lorsque Sakai n'est pas là, ça serait vraiment extraordinaire. Mais quand on regarde la manière dont le club est géré depuis 6 mois, on voit que il y a un directeur sportif qui fait pas grand chose, mais qui a quand même été capable d'insister et d'avoir Valentin Rongier, qui au final, là, Daniel, t'avais raison, est une vraie réussite pour l'OM. Et il y a surtout un entraîneur qui, lui, a eu des idées cet été qui n'étaient pas forcément hyper populaires en la personne d'Alvaro et de Pipa Benedetto, et on voit que la réussite est quand même très fortement du côté d'André Villas-Boas. Donc pour la prochaine saison, là il y a une seconde place qui se profile. On va voir comment ça va se dérouler. Ça n'est pas encore acquise. Il y a beaucoup de matchs de déplacement contre des concurrents directs en seconde partie de saison, donc rien n'est encore joué, même si l'avance est assez confortable et même si pour l'instant on est assez enthousiaste aussi face aux six premiers mois de l'OM. Mais attention, va falloir absolument recruter. Si l'OM accroche la Ligue des Champions sans se renforcer, je pense que l'OM joue le maintien la saison d'après. L'enveloppe ne sera pas illimitée. On sait qu'il y a beaucoup d'argent qui a déjà été mal dépensé, donc il reste plus grand chose pour refaire une équipe. Donc il va falloir être ultra malin, être capable de faire des bons coups, être capable justement, tu vois, de faire en sorte que la Ligue des Champions, ça soit pas une bénédiction qui se transforme en cadeau empoisonné. Je pense que si l'OM veut aller jouer la Ligue des Champions, et je te dis même pas bien effeuré, mais jouer la Ligue des Champions sans se prendre les pieds dans le tapis la saison d'après en championnat, il y a au moins la moitié de l'équipe à refaire. Donc arrêtons de lancer de réagir à des rumeurs qui sont sur des noms de sur des gros des noms qui sont connus, et essayons plutôt de recruter intelligemment comme ça a été fait cet été avec André Villas-Boas.
Tu parlais du poste d'une doublure derrière à droite, il faudrait quoi selon toi à l'Olympique de Marseille?
À gauche, il faut un titulaire, parce que même si AVB a ressuscité à ma vie, c'est loin d'être satisfaisant à 100%. Et à droite, je pense que Saka a eu un gros coup physique parce qu'il a fait la Coupe d'Asie, il a beaucoup enchaîné la Coupe du Monde, la saison, la Coupe d'Asie. Il a besoin de refaire un peu de frais, mais tu peux pas continuer avec Bounassar. Bounassar, il est bien gentil, il déborde, mais je pense que sur les 10 centres qu'il tente par match, il y en a aucun qui arrive dans la surface. Donc ça, c'est dramatique. Cette équipe, pour finir la saison, elle a pas besoin de beaucoup de rodage.
De marcher pour aller mettre les mecs, prendre des gars comme tu veux là. Franchement,
tu prends un latéral droit remplaçant et essayer de trouver un latéral gauche.
Il n'y a pas à s'affoler. Là, l'équipe comme elle est là, avec un match par semaine, elle va tranquillement finir sur le podium. Il y a pas...
Mais c'est là où tu te trompes.
Pourquoi?
Tu te trompes parce que sur la première partie de saison, c'est assez extraordinaire ce que l'OM a fait, parce que quand on compare à ce qui s'est passé l'an dernier, mais tu regardes dans le contenu des matchs, t'es vraiment quand même assez dépendant de l'état de forme de Dimitri Payet. Et si ton plan de jeu, ça repose sur un joueur, c'est compliqué.
T'es pas en train de me parler d'un parcours en...
Daniel, quand Payet est pas là, t'as fait 4 matchs sans gagner.
Tiens, bah regarde, moi je rebondis là-dessus. Sturridge, aujourd'hui, il a 30 ans. Payet, il avait quel âge?
29.
Non, il avait 30 ans, il est arrivé en 2017, je crois. Il avait 30 ans exactement quand il est arrivé. Et franchement, c'était cher. C'est tout ce que tu veux. Aujourd'hui, t'enlèves Payet, t'as plus d'équipe à l'OM.
Mais est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que c'est pas le péché original de Macourt d'avoir été chercher Dimitri Payet?
Ça peut être le même style sur un story. J'ai aimé qu'il aurait été remplacé par
Le problème, c'est que Payet,
ça n'a rien à voir. C'est pas du tout. Tu changes tout ton système de jeu. Story, j'ai pas du tout le remplacement de Payet. Si jamais, on parle de ce mec-là.
C'est pour jouer à droite.
Daniel, par rapport à ce que tu disais, est-ce que justement, puisque l'OM va sans aucun problème, selon toi, arriver sur le podium, est-ce que ce n'est pas le moment de préparer l'avenir et de faire venir des joueurs cet hiver pour préparer une saison prochaine où il faudra un effectif plus étoffé?
L'année prochaine, oui. Effectivement, là, si tu vas avec cette équipe-là
en Ligue des Champions, on est d'accord qu'on joue le maintien après.
Tu plantes le championnat et tu plantes la Coupe d'Europe. Donc oui, mais ce chantier-là, il est très très compliqué. Parce que je ne sais pas d'abord quelle est la ressource financière que va avoir l'OM et quelle enveloppe ils auront
pour
recruter.
C'est simple, Daniel. Tout dépend du transfert ou pas de Florent Thauvin.
Ah, mais t'achètes combien de joueurs avec Thauvin de Ligue des Champions?
Thauvin aujourd'hui, qui va te l'acheter et combien aujourd'hui?
C'est ça le problème. C'est que sa blessure est un vrai accident.
Thauvin cette année, il
n'a
pas joué. Tu crois que tu vas mettre plus de 25 millions l'été prochain?
Mais même au-delà de ça, avec 25 millions, t'achètes combien de joueurs de Ligue des Champions?
Le premier facteur, c'est que sa blessure, c'est un accident industriel pour l'OM, parce que contractuellement, il lui reste une saison et demie de contrat, et c'était l'été où Jacques-Henri Hérault capitalisait beaucoup pour qu'il fasse une grosse saison et de remplir les caisses.
Aurélien nous a appelé au 32-16. Aurélien, supporter de l'OM, 28 ans. Bonsoir Aurélien.
Bonsoir à tous.
Bonne année, meilleurs vœux.
Ouais, bonne année, meilleurs vœux, merci à vous aussi.
Alors, Sturridge, pour toi, bonne idée, mauvaise idée?
Ah non, mauvaise idée. Mauvaise idée pour plusieurs raisons. De un, il est fragile, il se blesse pas mal. Il est un peu en fin de course parce qu'il a 30 ans. Il vient de Première Ligue, donc clairement, il va demander un gros salaire. Et pour moi, c'est pas la priorité. Pour moi, la priorité du mercato, ça serait plus de recruter un concurrent à ma vie à gauche, parce que même s'il revient bien, c'est pas garanti à 100%. Apparemment, il parlait de la piste Goulam en prêt de Naples.
Il est rincé aussi.
Ça peut être intéressant.
Il est rincé physiquement.
Ouais. Après, c'est sûr. Ouais. Après, pareil. Moi, là où j'en attends, c'est que je suis d'accord. Il faut quelqu'un à droite, parce que Sarr à droite, c'est pas non plus énorme, et Sakai, je pense qu'il est un peu crevé.
Il est rincé aussi.
Et moi, je pense que la clé du mercato, c'est va falloir vendre Strootman, parce que clairement, il sert à rien.
Ah, faut le donner.
Pour moi, Camara, c'est beaucoup plus intéressant que lui à son poste, et il prend un très très gros salaire.
Mais Strootman, tu vas finir la saison avec lui parce que tu peux pas perdre en termes de simplement de nombre de joueurs, quoi. Donc à moins de prendre quelqu'un au milieu, de toute façon il faut finir avec lui. C'est à la fin de la saison que tu l'écarteras si tu trouves quelqu'un pour te le prendre.
Moi je vous le dis.
Et pour revenir à votre attaquant anglais là, sans déconner. Quand à partir du moment où tu recrutes en Turquie. C'est que t'es cramé.
Mais
parce que la Turquie normalement c'est le dernier port.
Oui.
C'est le port de l'angoisse.
Ouais, c'est sûr.
Donc normalement c'est là que tu vas terminer. Donc si tu ressors un mec de Turquie pour qu'il revienne, là c'est fini, ça peut pas marcher pour
non
moi.
Mais c'est la figure de proue de toutes les erreurs qu'il ne faut plus faire à l'OM. En termes de recrutement.
Moi je pense que ça sera
après attends tu nous parlais de vendre Strootman parce qu'il a un gros salaire etc. J'ai juste rappelé que Grégory Sertic et ses 250 000 euros mensuels merci Rudy Garcia et ses agents sont toujours clair. Au club.
Oui non c'est clair et que lui je crois que ça fait 2 saisons qu'il a joué je crois que le dernier match qu'il a joué c'était contre Guingamp avant la finale d'Europa League donc ça c'est sûr que c'est catastrophique.
Il n'est pas rentré 5 minutes cette année.
Il me semble peut-être en début de saison mais après comme on a aussi un Kiawi, on a des joueurs comme ça qui jouent 5 minutes de match. Mais après, moi, le problème, c'est qu'on n'a aucune garantie sur notre sécurité financière, même si on joue la Ligue des Champions. Et il ne faudra vraiment pas se planter cet été. Je ne pense pas qu'on va avoir une grosse enveloppe. Et pour moi, il ne faudra pas se planter sur les transferts.
Non.
Pour moi, l'année dernière, je pense qu'on aurait dû tenter, après sa grosse saison à Strasbourg, même si ce n'est pas un gros joueur, mais un mec comme Kenny Lala, pour moi, en concurrence, à regard droit avec Sakai, ça aurait été bien. Bon, après, c'est mon choix personnel. Moi aussi, une autre erreur, c'est d'avoir cédé Cabella. Cabella, il n'était pas régulier, mais il mettait de la concurrence au milieu de terrain, quoi, en position de 10.
Merci beaucoup Aurélien d'avoir été avec nous. On te souhaite une très belle année 2020 à l'écoute
merci,
de RMC.
Bonne année à vous aussi.
Le mot bonne de la soirée. Fin pour toi, Jonathan.
Non, mais tout simplement, le fait que des noms de ce genre-là, comme Daniel le dit, qui viennent de Turquie, circulent à l'OM, c'est vraiment le symbole que même si là, pour l'instant, les 6 premiers mois, avec Villas-Boas, c'est enthousiasmant, tout le monde est content, mais il symbolise quand même que il y a un mal structurel dans ce club-là, un mal qui est un mal de gestion, de mauvaise gestion, que le club pour le projet pour l'instant n'a toujours pas décollé et que pour l'instant je considère que la réussite d'André Villas-Boas c'est un pansement sur une jambe de bois.
Ouais, mais le problème c'est que ta jambe de bois elle est dure à soigner parce que dans le contexte concurrentiel aujourd'hui, l'OM on n'arrive pas à savoir sur quel marché ils peuvent se positionner. Ils sont quoi sur 3e, 4e marché, même en Amérique du Sud, même avec le recruteur le plus malin du monde. Est-ce que tu crois face à la concurrence que tu as partout en Europe, quel genre de joueurs ils peuvent encore approcher l'OM aujourd'hui? Ils ont réussi à avoir Benedetto, mais qui était un mec qui a déjà quoi 29 ans.
29 ans, oui.
Bon,
c'était quand même le meilleur avançant du championnat.
Mais ouais, voilà.
Ils ont Alvaro derrière, qui leur a fait du bien.
On n'est pas dans un niveau Ligue des Champions. En Espagne, donc aujourd'hui, l'OM ils peuvent se positionner sur quoi? Sur 3-4 bons gars, comme tu dis, en Liga, comme Alvaro, qui a pour le coup une bonne recrue. Est-ce que l'OM est capable de se construire un profil Ligue des Champions? Je participe à la phase de poule et j'essaye de faire 3e pour pouvoir être reversé en Europa League, tout en sachant les implications, les conséquences que ça a sur ton championnat ensuite, parce que les 2 matchs par semaine, ils sont durs à gérer. Enfin, c'est toute une construction de politique sportive à redéfinir,
oui,
en fait.
Et en fait, l'exemple.
Et surtout ne pas faire croire que l'OM peut redevenir un acteur de la Ligue des Champions. Si tu fais ça, tu fais une erreur auprès de tes supporters, auprès du club. Il faut faire très attention.
Si Marseille joue la Ligue des Champions et qu'il n'y a pas une vraie politique sportive qui se met en place cet été, comme tu dis, c'est difficile, l'OM joue le maintien. Après, je pense que l'exemple, le modèle, même si ils n'ont pas été brillant non plus en Ligue des Champions, c'est quand même le LOSC. Ils n'ont pas été ridicules et ils continuent de faire figure correctement en championnat.
Mais ça peut pas être le LOSC que ton modèle, puisque eux, ils ont une politique complètement différente. C'est je prends des mecs, je les revends.
Mais Marseille, dans l'état des finances de Marseille, c'est la seule solution.
Ouais, mais l'OM, si l'OM devient un club comme ça, déjà que j'ai pas beaucoup d'espoir sur ce qu'est notre Ligue 1, mais je veux pas que l'OM devienne. Je préfère que l'OM soit un club.
Je te dis que c'est la seule solution.
Que soit un club qui soit performant à son niveau, c'est-à-dire, je sais pas moi, qui devienne une sorte de spécialiste de l'Europa League ou de, mais en passant peut-être par la Ligue des Champions, en étant reversé chaque année, j'en sais rien.
Même.
Parce qu'ils peuvent pas aller en 8e ou que ça sert à rien d'aller en 8e.
Même pour être reversé, faut pas finir dernier.
Non mais au-delà de ça,
c'est compliqué.
On va éviter de s'enflammer.
Mais en aucun cas être le club qui vient juste faire du trading. Si l'OM c'est ça, c'est horrible.
D'où est l'OM. Déjà, l'OM aujourd'hui en seconde position par rapport où ce club était cet été. Et quand tu vois les premiers matchs de l'OM sous l'ère Villas-Boas, mais c'était cataclysmique, hein, le niveau de jeu. Qu'il soit déjà aujourd'hui juste second de la Ligue 1, c'est extraordinaire.
Merci Dimitri Payet. Hein.
C'est extraordinaire.
Mais donc c'est la Ligue 1.
Que ce club s'installe déjà peut-être sur une deuxième, troisième position de manière un peu plus régulière en Ligue 1, ce sera déjà très bien pour ce club. Il grandira ensuite, je pense, petit à petit. La crise de croissance, c'est jamais bon. Hein. Derrière,
et on va parler dans quelques instants.
Petit à petit, quant à un président qui est aussi incompétent et un manque de clarté totale sur ce que quelle est ta politique sportive sur le moyen terme, c'est quand même un petit peu compliqué.
On va parler dans quelques instants de l'avenir proche de l'Olympique de Marseille qui affrontera Trélissac en Coupe de France. Ce sera dimanche et on sera avec Jimmy Burgo qui est joueur de cette équipe de Trélissac qui va nous expliquer comment ses amateurs préparent cette rencontre face à l'OM. On parlera également tout à l'heure à partir de 22h de l'évolution de la communication chez les footballeurs. Et puis juste après cette petite pause, on ira faire un tour du côté d'Anfield. Là tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. Timothée Mémon.
21h43, on est de retour dans l'After. Vous nous appelez au 32-16 pour participer à notre débat de tout à l'heure à partir de 22h. On va parler de l'évolution de la communication chez les footballeurs, notamment et principalement d'ailleurs à travers l'émergence des réseaux sociaux durant la dernière décennie. Il y aura également le Mercato Show. On parlera un petit peu de l'Olympique Lyonnais et du Mercato côté Lyonnais. On reviendra enfin à la fin de cette émission sur la Première Ligue. Et justement, il y a un match en cours, Liverpool, Sheffield United. C'est avec Clément Brossard.
Les dernières secondes avant la mi-temps et les Reds qui dominent largement cette partie, 1-0, le buteur Mohamed Salah à la 4e minute. Il y a eu des opportunités de break pour Salah, pour Wijnaldum, mais pour l'instant il y a un très bon Dean Henderson dans les buts qui retarde l'échéance. L'objectif et le défi, eh bien, c'est ne pas perdre cette année. 18 victoires et un match nul après 19 journées, 19e victoire qui se profile, essayer d'égaler ce record tenu pour l'instant par les Invincibles en 2003-2004, les Invincibles de Vieira, de Lundberg, de Henry. Pour l'instant ça marche bien pour Liverpool. Petite stat également intéressante, 2 fautes seulement après 45 minutes, c'est assez rare pour le souligner. On approche de la mi-temps, 1-0 pour Liverpool face à Sheffield United.
Merci beaucoup Clément. On va à présent parler de la Coupe de France avec notamment eh bien ce match, l'une des affiches forcément puisque
l'Olympique... On a l'idée là parce que j'ai retrouvé le tu préfères que j'ai très 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 mal proposé à Jonathan tout à l'heure en fait.
Alors va pour le tu préfères mais rapidement.
En fait parce que tout à l'heure je me suis embrouillé, je te le repropose. Tu préfères que l'OM fasse 4e et que le PSG sorte vite en Ligue des Champions comme chaque année ou que l'OM fasse 2 et que le PSG gagne la Ligue des Champions? C'est mieux.
Là, je bien facilement. Comme je t'ai dit que si Marseille va en Ligue des Champions et qu'il n'y a pas une manne financière inespérée qui tombe du ciel l'année d'après, tu joues le maintien. Je préfère que Marseille termine 4e.
Ça m'était sûr, c'est une vraie.
Pour éviter de jouer le maintien. Non.
Voilà qui est dit.
Tu fais pas comme Jean-Michel Aulas. Pense au foot français.
Je pense pour le Stéphanois.
Je pense au moyen terme
pour tester un petit peu. Non, mais c'est toujours bien chez le supporter de tester quel est son degré d'amour.
Attends. Moi, je réponds.
Daniel, je vais te dire un truc. C'est pour ça, il faudrait d'abord que je considère Lyon comme un club français.
Oui.
Donc tu vois, il y a déjà un
Lyon.
Ouais. Faudrait déjà que je le considère moi comme un club français.
Tu le considères comme quoi?
Ah bah moi c'est Lyon. C'est hors catégorie.
C'est un pays,
c'est
un pays.
Daniel,
Stéphanois, ils sont tordus.
Maintenant que ça fait que c'est passé, est-ce que tu aurais été sincèrement heureux si Marseille avait battu l'Atlético Madrid en finale de Ligue Europa?
Redis-moi, pardon.
Si Marseille avait battu l'Atlético en finale de Ligue Europa, est-ce que tu aurais été sincèrement heureux? Est-ce que je peux dire la vérité maintenant?
Pour le football français,
t'es un gros menteur parce que j'étais avec toi pendant le match et je m'en ai mis plein la gueule.
Voilà ça, qui a dit normal, les comptes sont réglés. C'est la mi-temps en première ligue entre Liverpool et Sheffield, 1-0 en faveur de Liverpool. But inscrit en tout début de rencontre par Mohamed Salah. On est donc avec Jimmy Burgo. Merci Jimmy d'avoir été patient pendant que nous a donné à nos élucubrations. Bonsoir Jimmy.
Bonsoir.
Salut Jimmy.
Merci d'être avec nous. Tu es capitaine et défenseur de Trélissac et tu fais partie des joueurs à avoir déjà affronté 2 fois l'Olympique de Marseille, 2010, 2016. Tu peux nous parler un peu de ces expériences, de ces souvenirs et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand vous avez à nouveau tiré l'OM?
C'est ça. Donc en 2010, on avait perdu 2-0 déjà. Je me souviens qu'on avait une équipe très jeune et Marseille était en pleine bourre. Ils avaient vraiment une armada offensive très forte.
Niang, Brandao.
Ouais, Brandao, il y avait même Morientes sur le banc aussi, je me souviens.
Bien sûr,
des chances sur le banc.
Ouais, il y avait des chances sur le banc, c'est ça. Et on avait pris le match, c'était pour la première fois pour nous, on était très jeunes, et on avait pris le match comme une grande fête, en fait, sans penser aux résultats, on va dire. On était contents juste de les voir déjà. Je pense que même limite avant le match, on était content. On va voir les maillots, on va voir des maillots de Marseille. On va leur dire bonjour. Limite, on va leur demander des autographes, quoi. Et donc, on avait fait un match très très moyen. On était passé complètement à côté du match. Et après, avec l'expérience en 2016, on a rejoué Marseille. Et c'était par contre complètement différent. On avait une équipe vraiment mature, en plus qui jouait le haut tableau en CFA. Et je me souviens que Mandanda avait été l'homme du match sur ce match-là. Et, ouais. Et on n'avait vraiment pas abordé le match de la même manière. Et on a eu toutes nos chances. Et donc là, j'espère que ça va se passer comme ça aussi dimanche.
C'est intéressant ce que tu nous dis, parce que on a eu la semaine dernière pas mal d'invités, par exemple Linas Monléry qui va affronter le Paris Saint-Germain, et tous nous disaient on va avant tout aborder ça comme une fête. Pour toi, ça doit rester un match de foot. Si vous voulez défendre votre chance d'une manière ou d'une autre, il faudra justement oublier le contexte, le fait que ce sera au moins pour vos supporters un moment unique.
Oui, voilà. Ça sera, de toute façon, ça sera une fête. Mais pour tout le monde, nous aussi, mais il faut surtout pas qu'on y pense. Parce que si on y pense, on va avoir énormément de regrets à la fin du match. On a la chance cette année d'avoir vraiment des gars matures dans l'équipe. Je crois que la moyenne d'âge de notre équipe doit être à 27 ans, quelque chose par là. Donc, surtout en plus, on n'est pas... Pour nous, en tout cas, c'est pas la première fois qu'on va jouer une Ligue 1 aussi. En Coupe de France, il y a pas mal de joueurs dans l'équipe qui ont fait un gros parcours. Et donc non, en tout cas, on travaille dur, très dur pour essayer de faire un résultat. Et bien sûr, si on fait un résultat, ça sera un miracle. Mais en tout cas, on va jouer nos chances à fond et on va pas aller là-bas pour faire la fête. On fera la fête après le match, mais en tout cas avant le match, on défendra nos chances.
Est-ce que vous avez toujours ce joueur Papin qui s'appelle Papin dans votre équipe?
Non, on l'a plus, il est parti à Chartres.
Il avait joué contre Marseille en 2016.
Et qui truque le tirage alors pour que Trélissac tombe tout le jour sur l'OM?
Je sais pas. Moi, j'étais sûr avant le tirage, j'étais sûr qu'on allait tomber sur Marseille. Tout le monde est en prêt. Et les gars, ils disaient, ouais, Marseille, c'est le meilleur tirage pour eux qui ont jamais joué à Marseille. Ils disaient, ouais, Marseille, ça serait formidable et tout. Après, moi, Marseille, c'est très bien, mais je voulais autre chose.
Ouais. Rappelons-nous que le but du 2-0 est inscrit en toute fin de match en 2016. Est-ce que vous vous rappelez de qui l'a marqué?
C'était Fletcher, non?
Exactement, Steven Fletcher.
Sur un contre.
Ouais, exactement. Ouais,
Jimmy Burgot, vous êtes donc le capitaine défenseur de Trélissac. Comment, quand on est un joueur amateur après cette période défaite, comment est-ce qu'on prépare ce match-là? Est-ce que on est capable, on va dire, de se limiter, de se concentrer sur l'événement, de se préparer comme pour un match finalement qui va ressembler peut-être le plus de votre carrière à un match professionnel?
Oui, mais de toute façon, on se doit de faire ça. On se doit plus de faire ça parce que déjà qu'à la base on va dire les chances sont réduites pour passer. Donc si en plus de ça on se met une mine le 31 et que on s'entraîne une fois par semaine et tout ça. Donc non, en tout cas on met toutes nos chances de nos côtés. On s'est entraîné le 31, on s'est entraîné presque tous les jours, on a eu moins de vacances que d'habitude. On a fait des très grosses semaines. Donc non, tout le monde est en forme. On va aborder ce match franchement avec en tout cas une confiance, mais en pleine confiance et en tout cas en forme en tout cas.
Jimmy Burgot, capitaine et défenseur de Trélissac, le prochain adversaire de l'Olympique de Marseille en Coupe de France, ce sera dimanche à 14h15 au stade Beaublanc de Limoges. Une question pour vous de Damien Périnel.
Vas-y Damien. Ouais Jimmy, vous êtes en N2 aujourd'hui. Oui. Généralement quand on dit club inférieur à Marseille, mais il faut savoir que les clubs de N2, t'as certains clubs, hein, t'as des contrats fédéraux, t'as peut-être 10 joueurs, tu peux avoir 5 joueurs parfois selon les clubs qui font ça à plein temps. Vous vous entraînez, je pense, entre 4 et 5 fois par semaine à peu près,
c'est
sur
ça.
Le rythme.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc au bout d'un moment, les joueurs de N2, il y en a pas mal qui sortent des centres de formation, qui n'ont pas été gardés. Il y en a qui ne sont pas passés, ça ne s'est pas joué à grand chose non plus. Au bout d'un moment, vous n'êtes pas des pieds carrés non plus. Vous savez jouer au foot et vous allez aborder ce match aussi, peut-être sans être une victime, je veux dire.
Oui, voilà. Après, on voit vraiment que le football amateur évolue de plus en plus. Je le vois, moi, mes précédentes années, je savais que le niveau CFA, j'ai l'impression qu'il augmente de jour en jour. Sur le circuit, il y a plein d'anciens pros, surtout dans le monde amateur, maintenant. Donc, on s'entraîne, nous, tous les jours. On vit, on va dire, à peu près comme des professionnels, à part qu'on bosse des fois la journée, mais sinon, on s'entraîne tous les jours. Donc, non, sur ça. Après, bon, si Marseille nous met 6-0 dimanche, ok. Mais bon, je pense que ça sera un match serré quand même. Donc, on verra.
Ah, c'est fou quand même, c'est que tu puisses dire ça va être un match serré. Vous jouez contre le deuxième de Ligue 1. Enfin, je trouve pas fou dans le sens où c'est juste ambitieux. Vous avez raison de l'envisager comme ça. Quand arrive le 32e de finale de Coupe de France, souvent on a des noms d'équipes qui reviennent un petit peu régulièrement. On en parle deux fois par an, sauf quand l'aventure va un petit peu plus loin. Et Trélissac, ça fait partie des noms comme ça. Les Français qui écoutent savent peut-être pas forcément où ça se trouve. Évidemment, on ne sait pas qui joue dedans. C'est des clubs qu'on ne connaît pas, mais le nom revient. C'est quoi l'histoire? C'est que la Coupe de France, c'est une petite tradition dans ce genre de club-là. Quand arrivent les tours de Coupe de France, il y a quoi? Comme une sorte de fluide, quelque part, où les gens sont intéressés par ça? Le club vit avec la Coupe de France?
Non, pas du tout. Je pense que c'est un...
C'est juste coïncidence qu'on vous retrouve si souvent à ce niveau-là?
Ouais, c'est une coïncidence. Ouais. Enfin, oui, parce que vraiment, les championnats et la base. En plus, en début d'année, c'est vraiment ce qu'on se dit. Le championnat, la Coupe de France, c'est vraiment un plus. Surtout que là, on voit cette année que le championnat, on a besoin de points en ce moment. Donc non, on passe pas du tout à la Coupe de France. On aborde après les matchs de Coupe de France les premiers tours les plus importants pour les gagner, parce qu'on est l'objectif, c'est quand même les 32e. Et sinon la Coupe de France c'est vraiment un plus. Et on, en tout cas après les sacs depuis des années, on a la chance de faire pas mal de parcours, mais en tout cas c'est pas une priorité.
Ah oui, d'accord.
Jimmy, cette année justement, vous avez déjà vécu ces deux matchs. On imagine qu'il y a certains de vos coéquipiers qui sont un petit peu plus jeunes. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Quels sont les conseils que vous avez distillés justement pour pas tomber dans l'écueil dont vous parliez tout à l'heure, de vouloir faire un selfie avant la rencontre et d'avoir gagné son match à condition d'avoir pu échanger un maillot?
Ouais, c'est ça. Faut surtout pas les regarder. Donc, faut avoir énormément de respect pour eux, parce que pour ce qu'ils font, hein, tout ça. En plus, en ce moment, ça tourne. Mais si on commence à les regarder et avoir trop de respect aussi, on sera pas dedans. Donc, en tout cas, faut prendre le match comme si on jouait un match de championnat, même si c'est pas un match de championnat. S'adapter tout de suite au public. J'espère que le public sera derrière nous. Et après, je vous dis, ça joue à des détails. J'espère que ce jour-là, bon, Marseille, nous prendrons peut-être à la légère ou je sais pas quoi. Après, c'est sûr que si de leur côté font leur match à 100%, ça fera très dur pour nous. Mais en tout cas, nous, tout ce qu'il faut, nous, en tout cas, c'est être à fond dedans et surtout pas les regarder et essayer de leur marcher dessus tout en étant raisonnable.
De toute manière, l'Olympique de Marseille a malheureusement un historique assez fourni de déconvenues face à des clubs de division inférieure en Coupe de France.
Ouais.
Vous pouvez peut-être jouer là-dessus aussi.
Ouais, surtout que je pense que ça date pas de loin. André Gieux, ils ont éliminé l'an dernier.
Exactement, oui. Il y en a eu d'autres cas. Bon, je, en tant que supporter de l'OM, je ne citerai pas parce que c'est un peu douloureux, mais ça, c'est déjà arrivé et pas forcément des saisons où ça se passait mal.
Il y a des mecs dans l'équipe qui sont supporters de l'OM?
Que supporters de l'OM? Ouais, il y en a. C'est vrai, il y en a.
Ouais.
Et vous, Jimmy? Moi, j'espère qu'ils seront supporters de l'OM qu'après le match. Moi, non, pas trop.
Vous êtes pour supporter quelle équipe?
Je supporte le FC Nantes, parce que enfin j'ai été formé là-bas.
D'accord.
J'ai aucune rancœur de là-bas, je garde que des bons souvenirs, donc le FC Nantes c'est mon club principal.
Jimmy, justement tout à l'heure tu as dit voilà, faut qu'on prenne ce match comme un match de championnat, et souvent les clubs pros c'est l'erreur. C'est-à-dire ils disent la semaine d'avant ils vont peut-être jouer contre leur réserve justement pour voir un peu avoir un avant-goût, un aperçu du niveau national N2 ou N3 souvent. Et c'est comme ça en fait que les pros peuvent se mettre au niveau d'un club de N2. Donc quand tu dis ouais, il faut jouer un match de championnat, ouais, jouez votre match de N2. Par contre, la Ligue 1, faut qu'elle joue un match de Ligue 1. On dit ouais, un match de coupe, faut se mettre au niveau de l'adversaire, au niveau de la combativité, et ça. Mais normalement, il y a pas de problème, je veux dire. Donc c'est pour ça. Si restez sur vos acquis, et puis on sait jamais ce qui peut se passer. En effet, si Marseille joue à son intensité, ça va être dur, c'est sûr. Mais parfois, ils se mettent à votre niveau. Hein.
Oui, je suis totalement d'accord avec ça. De toute façon, on voit le parcours des Herbiers l'an dernier, hein, même si c'était un club de national.
Exactement.
C'était un club de national quand même qui a perdu énormément de matchs nationales, vu qu'en plus ils sont descendus. Donc on voit qu'ils ont fait de gros exploits, et quand ils ont perdu, ils n'ont jamais pris pour rien. Nous, on l'a vu aussi il y a 3-4 ans contre Marseille, où je vous dis, c'était Mandanda qui avait été l'homme du match, et si c'était un combat de boxe, on aurait gagné au point.
Oui, c'est vrai, je m'en rappelle très bien. C'est Alessandro qui marque un peu contre le cours du jeu d'ailleurs.
Ouais,
c'est Tuer qui marque à la fin du match.
Sur un de nos temps forts, donc on avait eu 2-1 contre 1 juste avant en plus. Donc,
Steve était dans un grand soir ce soir-là. Il ne jouera pas contre vous d'ailleurs. Ça sera Johan Pelé dans les cages.
Okay. Bon, Johan Pelé, c'est pas n'importe qui non plus.
Exactement.
Merci beaucoup, Jimmy Burgo, d'avoir été avec nous. On vous souhaite le meilleur avec Trélissac.
On rappelle l'exploit quand même.
Effectivement, on va leur souhaiter un exploit.
N'oubliez pas Payet, mais après, ça ira.
Le match sera dimanche à 14h15 au stade Beaublanc de Limoges. On vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir été avec nous. On revient dans un instant pour parler de la communication chez les footballeurs à travers les réseaux sociaux, ce que cela a changé dans la décennie qui vient de passer. À tout de suite dans l'After.
RMC, 21h minuit. L'After Foot.